Pourquoi souriez-vous, Béatrice ? Lui demanda le comte de Poitiers.
Pour rien, monseigneur, sinon parce que j'ai toujours plaisance à vous voir et à vous écouter.
En mon absence, ma mère, reprit Philippe, j'aimerais que Jeanne vécût ici auprès de vous. Vous pourrez l'entourer des soins qu'il faut, et serez mieux à même de la protéger, pour tout dire. Je me méfie assez des entreprises de notre cousin Robert qui, lorsqu'il ne peut venir à bout des hommes, s'attaque aux femmes.
Ce qui signifie, mon fils, que vous me rangez parmi les hommes. Si c'est un compliment, il ne me déplaît point.
En vérité, c'est un compliment, dit Philippe.
Serez-vous toutefois de retour pour la délivrance de Jeanne ?
Je le souhaite fort, mais ne puis vous l'assurer. Ce conclave est si finement embrouillé que je n'en pourrais dénouer les fils sans patience.
Ah, il m'inquiète que vous soyez éloigné pour un si longtemps, Philippe, car mes ennemis vont sûrement en faire leur profit, quant à l'Artois.
Eh bien, prétextez de mon absence pour ne céder rien, ce sera le plus sage, dit Philippe en prenant congé. Quelques jours plus tard, le comte de Poitiers partit pour le midi, et Jeanne vint s'installer à Conflans. Ainsi que Mahô l'avait prévu, la situation en Artois empira presque aussitôt. Le printemps incitait les alliés à sortir de leur château. Sachant la comtesse isolée et tenue en quasi-disgrâce, ils avaient décidé d'administrer directement la province et le faisaient très mal. Mais l'état d'anarchie leur plaisait assez, et il était à redouter que leur exemple ne fût suivi dans les comtés voisins. Louis X, qui avait regagné le séjour de Vincennes, résolut d'en finir une bonne fois. Il y était encouragé par son trésorier, car les impôts d'Artois ne rentraient plus du tout. Mahô avait beau jeu de dire qu'on l'avait mise dans l'incapacité de percevoir les tailles, et les barons opposaient la même réponse. C'était le seul point sur lequel les adversaires fussent d'accord.
« Je ne veux plus de grands conseils, ni de tractations par envoyé parlementaire, où chacun ment à chacun, et où rien n'avance, » avait déclaré Louis X. « Cette fois, je vais procéder par entretien direct et amener la comtesse Mahô à me céder. »
Le hutin, durant ces semaines-là, donnait les signes de la meilleure santé. Il n'éprouva que fort peu les malaises, flux de toux et maux de ventre auxquels il était sujet. Les jeûnes pieux imposés par Clémence lui avaient certainement été salutaires. Il en conclut que l'envoûtement pratiqué contre lui était resté inopérant. Et au moins, par précaution, il continuait plusieurs fois la semaine. Également, il entourait la grossesse de la reine non seulement des sages-femmes les plus réputées du royaume, mais aussi des saints les plus compétents du paradis. Saint Léon, Saint Norbert, Sainte Colette, Sainte Julienne, Saint Druon, Sainte Marguerite et Sainte Félicité, cette dernière parce qu'elle n'eut que des enfants mâles. Chaque jour arrivaient de nouvelles reliques. Tibia et prémolaire s'accumulaient dans la chapelle royale. La perspective d'une progéniture dont il était certain qu'elle fût sienne avait parachevé la transformation du roi, et fait de lui un homme moyen, presque normal. Il était apparemment calme, courtois, détendu, le jour où il convoqua la comtesse Mahô. De Charenton à Vincennes, la distance était courte. Pour conférer à l'entretien un caractère d'intimité familiale, Louis reçut Mahô dans l'appartement de Clémence. Celle-ci brodait. Louis parla d'un ton conciliant.
« Scellé pour la forme l'arbitrage que j'ai rendu, ma cousine, puisqu'il semble que nous ne puissions obtenir la paix qu'à ce prix.
Et puis nous verrons. Ces coutumes de Saint-Louis, après tout, ne sont pas si bien définies, et vous aurez toujours moyen de reprendre d'une main ce que vous aurez faim de donner de l'autre. Imitez ce que j'ai fait moi-même avec les Champenois, quand le comte de Champagne et le sire de Saint-Phal sont venus me réclamer leur charte. J'ai fait ajouter « Force les cas qui, d'anciennes coutumes, appartiennent au souverain prince et à nul autre. Aussi, maintenant, quand un cas apparaît comme litigieux, il relève toujours de la souveraineté royale. »
En même temps, il poussait vers la comtesse d'un geste amical la coupe où, tout en parlant, il puisait les dragées.
Mahô s'abstint de rappeler que l'ingénieuse formule dont Louis à présent s'enorgueillissait était due à Enguerrand de Marigny.
« Voyez-vous, sire, mon cousin, le fait ne se présente pas de même pour moi, répondit-elle, car je ne suis point souverain prince. Qu'importe, puisque j'exerce la souveraineté au-dessus de vous. S'il y a différend, il sera porté devant moi et je le trancherai en votre faveur. »
Mahô prit une poignée de dragées dans la coupe.
« Fort bonne, fort bonne, » dit-elle la bouche pleine, s'efforçant de gagner du temps. « Je ne suis pas bien gourmande de sucreries, mais je dois dire qu'elles sont fort bonnes. Ma bien-aimée Clémence sait que j'aime en grignoter à toute heure, et elle veille à ce que sa chambre en soit pourvue.
dit Louis en se tournant vers la reine de l'air d'un époux qui veut marquer qu'il est comblé. Clémence leva les yeux de dessus son métier à broder et rendit à Louis son sourire.
« Alors, ma cousine, reprit-il, vous allez sceller !»
Mao acheva de broyer une amande enrobée de sucre.